Koydesh, Shabbos Koydesh. Yudelech, prepare for Shabbos Koydesh. Joy is in the air for Shabbos Koydesh. Everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Koydesh.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de retrouver pour un nouveau rendez-vous du commentaire de la paracha avec aujourd'hui exceptionnellement le rabbin Madel Samama. Bonjour monsieur rabbin.
Bonjour Jean, merci bonjour à tous, bonjour à toutes.
Merci d'avoir accepté au pied levé l'emplacement dû à un empêchement pour le grand rabbin qui est là en général le vendredi. Aujourd'hui, demain en tout cas, nous lirons la paracha chez l'Arklecha, l'allumage des bougies aujourd'hui entre 19h53 et 21h19 et demain la fin du Shabbat 22h32. Notez que dimanche soir, lundi et mardi, ce sera Rosh Chodesh Tammuz. Et comme chaque semaine, évidemment, on va souhaiter un refouah shlema à tous nos malades. Amen. Et un bonjour particulier aux personnes aînées, à nos aînés et aux personnes isolées. On va, monsieur le rabbin Mendel Samama, avant de parler de la paracha, vous êtes aussi responsable de la cachotte de Strasbourg.
Oui.
Il y a de plus en plus de produits cachers, made in Strasbourg. Strasbourg, qui sont sur le marché, mais c'est pas la question que je voulais vous poser. Il y a quelques semaines, même un bon mois, il y a une polémique autour des produits où il y aurait, on va dire, des petits insectes dans les ingrédients, la composition. C'est sérieux, il faut faire attention.
Voilà, bon, il y a eu beaucoup de publications sur cette question. Je pense qu'il faut d'abord, un, déjà rassurer les gens en expliquant que ce type de produit, normalement, est obligatoirement mentionné sur l'étiquette. Donc, au moins sur la partie, vous voyez, où il y a marqué valeur nutritionnelle, etc. Donc, normalement, c'est indiqué.
Il faut lire, donc.
Il faut lire, il faut faire attention. Je pense, de toute façon, il faut toujours lire et faire attention à ce qu'on mange. Déjà, c'est une règle de base. Et après, la deuxième chose, c'est que c'est un produit qui a pour objectif d'enrichir en protéines le produit final. C'est surtout utilisé aujourd'hui dans les applications telles que les barres énergisantes, etc. Donc de toute façon, ça a toujours été des produits un petit peu problématiques parce que souvent on le dit barre énergisante naturelle, etc. Mais bon, pour connaître un peu les dossiers de ce genre de produits, on se rend vite compte que il y a beaucoup d'additifs et des fois il y a des choses qui sont pas vraiment top au niveau cachère.
Alpi à la race, vaut mieux prendre des trucs cachères quoi, avec le tampon.
Ah oui, déjà de toute façon alpi à la race, c'est-à-dire si on veut vraiment faire attention, il faut faire attention à tout, voilà. Mais pas uniquement à cause de ça. Il y a pas longtemps, je visitais une usine qui produisait une purée de fruits à coque et qui était 100% naturelle, 100% fruits à coque, donc aucun problème. Et on s'est rendu compte que c'est pas évident. C'est-à-dire qu'on peut même avoir, par exemple, des pâtes d'amande, 100% pâtes d'amande, mais qui sont pas cachères.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire, voilà, parce que la problématique du kasher legume, il y a déjà la problématique, on va dire, de la composition, et après, il y a la problématique des contaminations croisées. Or, il y a beaucoup d'endroits, quand on travaille... plusieurs produits, mais qui font partie de la même famille, on ne fait pas très attention aux contaminations croisées. On se suffit de mettre sur une étiquette 100%, par exemple, pâte d'amande, et de rajouter que risque de contamination avec du lait, fruits à coque, enfin bref, toutes les mentions légales. Et là, on peut avoir des petits soucis, voilà.
Donc,
il faut faire attention.
Soyez prudent.
Soyez prudent.
On va parler de la paracha de la semaine. On peut faire un petit résumé de quoi on parle pendant cette paracha?
Alors, de quoi on parle dans la paracha? Il y a un exercice que j'aime bien faire dans toutes les parachiotes, c'est de regarder les différentes thématiques qui sont abordées et ensuite d'essayer de comprendre quel est le point commun entre toutes ces thématiques.
C'est ce qu'on va essayer de faire. Mais d'abord, c'était la première question, c'est est-ce qu'on peut savoir de quoi on parle dans cette paracha?
Donc déjà, de quoi on parle? Alors, faut savoir qu'on est un an et demi après la sortie d'Égypte un an et demi, moins qu'un an et demi, et le peuple juif doit rentrer en Israël. Et donc Dieu dit à Moshe, écoute, si tu penses que c'est une bonne idée d'envoyer des explorateurs, donc des espions, pour voir comment est-ce qu'on il faut conquérir la terre, bah vas-y, fais-le.
Alors, on va peut-être faire un peu différemment qu'avec le grand rabbin.
Oui.
Je voudrais qu'on s'arrête sur ce sujet-là.
Oui.
Parce qu'en fait, on a beaucoup de commentateurs qui posent la question de savoir finalement qui a dit. Est-ce que Dieu a demandé à Moshe? Est-ce que Moshe a demandé au peuple? Est-ce que c'est le peuple qui a fait la demande? Clairement, qui a eu l'idée et comment ça s'est fait? Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas très bien, c'est le peuple qui a demandé à Moshe ou le peuple qui a demandé à Dieu?
Alors,
ou Moshe qui a eu l'idée? Ou comment c'est passé?
Alors, on va rester focalisé sur la version de Rashi,
hein,
qui reste pour moi la version la plus, ce qu'on appelle en hébreu, pshuto shel mikra, c'est-à-dire le sens simple le sens littéral du texte. Donc, le peuple juif vient chez Moshe, il lui dit, ça serait quand même une bonne idée, donc, qu'on envoie des espions. Moshe qui prend aucune décision sans avoir l'aval de Dieu, donc il demande à Dieu, et Dieu lui dit, fais-le si tu penses que c'est une bonne idée. Donc, tel que la Torah dit, shlach lecha, et Rashi dit, leda techa, c'est-à-dire, envoie selon ton estimation. Donc, fais comme tu penses.
C'est un fait rare, finalement, parce qu'en général...
C'est quasiment le fait unique.
Oh, d'accord.
C'est même pas un fait rare, c'est quasiment le fait unique. Donc, où Dieu dit à Moshe, moi, je me prononce pas, voilà. Fais comme tu veux. On peut se dire que Moshe, à ce moment-là, aurait dû se méfier. Et se dire, tiens, Dieu n'est pas très pour, peut-être qu'il faudrait pas, etc. Ou alors penser, après tout, Dieu dit à Moshe de prendre ses responsabilités. C'est lui le leader, donc il prend ses responsabilités. Alors, si vous voulez, après, on pourra revenir là-dessus, parce qu'il y a quand même une idée derrière ce mouvement, en fait, où on demande à l'homme de prendre ses responsabilités. Et donc, Moshe envoie 12 personnes, et pas des clowns.
12 tribus.
Et pas des clowns, j'ai envie de dire. On envoie la crème de la crème. D'accord? Donc, c'est comme si vous imaginez, aujourd'hui, on envoie les 12 plus grands rabbins qui existent dans le monde, et on leur dit, on leur confie une mission. Et ils partent. Et après 40 jours, ils reviennent et ils disent, ce qu'on a fait. Mais par contre, c'est pas une bonne idée. Faut pas y aller. On n'y arrivera pas. Le peuple qui est là-bas est trop fort. Il y a des géants. Ça n'ira pas. Et là, on a en réalité deux personnes qui pour des raisons différentes, ont changé d'avis. C'est-à-dire, il y a Yehoshua et Caleb. Ces deux personnes, l'une, Yehoshua, ne va pas dans la vie selon la vie de la majorité pour une raison simple, c'est qu'il est le disciple le plus fidèle de Moshe et que Moshe a beaucoup prié pour lui. Et donc, de ce fait, il va pas selon l'opinion générale. Et il y a aussi un autre qui s'appelle Caleb. Alors lui, c'est plutôt par son mérite propre. Parce que lui, quand il arrive en Israël, il commence à explorer la terre, il se focalise sur une seule destination, et il va à Hebron. Et il va prier sur la tombe d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, donc les patriarches, et il demande à ce qu'il ne soit pas associé à l'opinion générale, et que, qu'il puisse échapper à la tentation de ne pas rentrer en Israël. Et il est sauvé par rapport à ça. C'est-à-dire que Caleb, ça va être après l'homme, le fer de lance, qui va retourner un petit peu le peuple. Il va dire non, on peut y aller, va y aller, on va le faire.
On va avancer dans la paracha. Finalement, Dieu décide, en clair, de ne pas faire entrer tous ces gens-là dans le peuple, d'Israël.
Alors, tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où eux disent « Ah non, c'est trop difficile, on ne peut pas y aller », Dieu dit « Écoutez, vous ne voulez pas y aller, on n'y va pas. » Donc,
vous allez mourir dans le désert.
Vous allez mourir dans le désert. Donc, en vérité, tous ceux qui ont été comptés dans les parachutes précédentes et qui avaient entre 20 et 60 ans, donc tous ceux-là vont mourir. C'est-à-dire tous les gens qui ont entre 20 et 60 ans. Donc, vous allez rester 40 ans dans le désert. Et comme ça, la génération se terminera. Et c'est la génération de vos enfants qui rentreront en Israël, sauf deux personnes. Donc, Yehoshua et Caleb, ces deux-là, eux rentreront.
Il y a aussi, je crois, dans la paracha, deux mitzvot. Qui sont intégrées, notamment celle de la challah.
Tout à fait. Et les tzitzit.
Et les tzitzit, deux éléments dans le deuxième, qu'on va reparler dans la paracha de la semaine prochaine de Korah, puisque c'est, on va dire, ce point-là qui va être...
un point de friction.
Voilà,
on va dire.
On va en parler la semaine prochaine. Je voudrais revenir sur le début de la paracha. Et il y a quelque chose que vous m'avez dit qui était assez intéressante. C'est finalement, c'est les personnages, ces 12 personnes qui ont été envoyées. Vous m'avez dit, c'est pas des clowns. comment ils ont pu tomber dans la perte de confiance en Moshe, en Dieu et en la promesse de Dieu de la faire entrer dans le pays? Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est vrai que cette question agite tous les esprits. Je dis agite parce que, pour ne pas dire secoue, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre le fait que nous avons 12 personnes, la crème de la crème, et qui ont vu en vérité des révélations. Donc ils étaient en Égypte, ils ont vu les 10 plaies, ils ont vu la traversée de la mer. Mmh. Ils ont été témoins du don de la Torah au Mont Sinaï. Mmh. Ils ont vu la révélation, ils ont vu la manne, ils ont vu les miracles, mmh. ils ont vu tout ça. Donc on ne parle pas de gens, on va dire, avec une conviction un peu bancale, non. Et c'est leur statut, je veux dire, c'est leur conviction, c'est leur implication, aussi bien, je dirais, dans la communauté que dans l'ensemble de leur œuvre, aussi dans l'étude, et qui a fait que ces gens-là sont devenus les chefs de tribu. Donc c'est vraiment les chefs de tribu. On est devant ce qui se fait de mieux.
Alors,
en termes intellectuels, en termes religieux, en termes de conviction, en termes d'implication. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une... Alors moi, ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est la version chassidique de ce qui s'est passé. Non pas parce que c'est une version qui nous apaise, mais c'est parce que c'est une version que je trouve proche de la réalité. La problématique, je dirais, générale de l'homme qui vit dans un genre de paradis qui était dans le désert, c'est-à-dire avec un confort matériel, puisqu'il ne devait pas se soucier ni de ceux qui vont manger demain, puisqu'ils savaient qu'il y avait la manne, ni comment ils allaient s'habiller, parce qu'il y avait des miracles par rapport à ça, ni comment ils allaient habiter, puisque les ananimes, donc les nuées, les protégeaient. Tout, spirituellement, il y avait le Mishkan, donc ils pouvaient continuer à servir Dieu. On va dire, ces gens-là vivaient dans un confort matériel et spirituel, et qui était, je dirais, d'une certaine sorte, le paradis sur Terre. Alors nous, on s'imagine qu'ils étaient dans le désert, comme ça, comme des nomades. Pas du tout. Je veux dire, les ananimes, les nuées s'occupaient de la climatisation, apaiser les sols, enlever les animaux, etc. Donc il y avait tout ce qu'il fallait. La problématique de l'homme qui rentre en Israël, qui en réalité, Israël, c'est le symbole du combat du quotidien. C'est-à-dire faire face à un monde hostile, devoir se soucier de sa subsistance, peut-être quitter la maison d'études aussi parce qu'on est obligé de faire face à une certaine réalité qui est moins confortable et qui est plus difficile, devoir éduquer ses enfants dans un monde qui parfois ne correspond pas forcément avec...
Vous êtes en train de me dire, le rabbin Mensama, que finalement, ils l'ont fait un peu exprès, ils ne voulaient pas...
Ils
étaient
pas.
Trop bons.
Mais en fait, ce qu'il s'est dit, c'était ce qu'il disait, d'ailleurs dans la phrase, il disait « Kichazaku mimenu », c'est-à-dire que l'altérité à laquelle ils doivent faire face demain est une altérité qui met en péril le projet divin.
Mais quand on vous dit « c'est un pays où va couler le lait et le miel », on devrait être rassuré.
Oui, mais à quel prix? À quel prix? C'est ça la question. Mais à quel prix? À quel prix le lait, le miel? À quel prix? À quels efforts?
C'est-à-dire?
Mais combien d'efforts une personne doit fournir pour s'assurer de pouvoir manger aujourd'hui et demain, de devoir labourer la terre, de devoir quitter la maison d'études? C'est-à-dire, on est obligé de quitter le Beth Amidrash pour devoir se concentrer et se consacrer à des tâches qui sont plutôt matérielles. Il y a là, en réalité, plus on monte dans la spiritualité et plus on veut quitter la matérialité. Et ça, c'est un phénomène qu'on rencontre pas uniquement dans la religion. On le voit bien chez certaines personnes qui ont une ambition spirituelle. Ils s'enferment dans des monastères. Ils essayent de quitter le monde dans lequel ils sont. Pour eux, il y a que la spiritualité qui compte. Or, la Torah, ce qu'elle cherche à faire de nous, ce n'est pas des anges, mais des hommes qui sont spirituels. C'est là où il y a tout le défi. C'est un défi qui est compliqué parce que on se rend compte qu'à un moment donné, on est comme en train de devoir choisir. Alors, est-ce qu'on doit choisir de travailler ou d'étudier? C'est compliqué de se dire que je vais étudier tout en travaillant. Et vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, ça me fait penser à l'histoire. Un jour, il y a, et je raconte souvent, c'est un jour un homme qui était à son bureau et en plein milieu de son travail, il lui prend un livre de Tehilim et il se met à lire les Tehilim. Et alors son collègue, son associé vient le voir et lui dit, mais je comprends pas, on n'est pas à la synagogue ici. Et il répond, il dit, oui, mais ça n'a jamais choqué personne de parler business à la synagogue. Donc, c'est là la difficulté. Comment intégrer dans...
Mais comment on peut comprendre que 12 rabbins, comme vous le dites vous, des super rabbins, puissent avoir ce doute ou cette question-là?
Mais parce que justement, ce que je veux dire par là, c'est que justement, il n'y a que deux façons d'échapper à l'extérieur. Je ne vais pas dire l'extrémisme, mais il n'y a que deux façons d'échapper au manquement de la mission. J'aimerais revenir quand même à une idée générale. Ouais. C'est que ta paracha, elle s'appelle Shelach.
Ouais.
Shelach, c'est-à-dire envoi. Mais Shelach, c'est-à-dire le premier terme de Shelach, c'est la Shlichut, c'est-à-dire la mission. Envoi en mission des gens. Donc, on doit absolument faire en sorte que une personne, quand elle est ici, sur Terre, elle se sente en mission. Elle a une mission. Chaque personne a une mission. La prise de conscience de la mission. Et c'est pas uniquement la prise de conscience de ma vie et de ce que moi j'ai envie d'en faire, mais c'est la prise de conscience de la mission générale. C'est là où il y a quelque part une certaine forme de différence, c'est-à-dire entre ceux qui ont décidé d'y aller et parce qu'ils se sont sentis incarnés par une mission comme Caleb et Yoshua, et les autres qui ont dit non, mais nous, on est très bien dans le désert, on a tout ce qu'il nous faut, aussi bien matériellement que spirituellement, on est des grands tzadikim, et on va rester des grands tzadikim dans le désert. D'ailleurs, ils n'avaient pas tout à fait faux, parce que quand on regarde l'histoire, on se rend bien compte que, si vous voulez, d'un point de vue religieux, on a plus de chances de rester religieux dans le désert que quand on va se confronter à la vie du quotidien. Donc, ils ont quand même raison dans leur théorie. La question, c'est de savoir, est-ce que je me sens incarné par cette mission, donc où je vais dépasser mes propres conclusions, ou alors je vais m'arrêter à mes conclusions. Et je pense que c'est ça le terme aussi, quand la Torah dit « Shlach lecha leda techa ». C'est-à-dire que cette mission de faire de ce monde un monde meilleur, c'est d'être une mission qui est incarnée par la personne, par son esprit, par sa conscience. C'est pas quelque chose... évidemment, il faut avoir une inspiration. Il faut avoir cette force qui nous dépasse, qui va faire en sorte que même dans les moments difficiles, on va continuer. Mais à un moment donné, il faut l'incarner par soi-même. Ça doit être une conviction personnelle. Parce que justement, si c'est pas une question de conviction personnelle, à la moindre difficulté, on flanche. On s'arrête au niveau de
mais là,
de
ils étaient convaincus, ces gens-là, non?
Ben, ils étaient convaincus, évidemment.
Mais par ils étaient... projet de rentrer en Israël.
Ben, ils ont peut-être pensé que le projet spirituel était trop ambitieux.
Ah, ça c'est... D'accord. Il y a une autre question que je vous posais concernant l'envoi des explorateurs. Quand on lit le texte, on se rend compte finalement que Moshe a très balisé. Il pose, il faut voir ça, 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 ça. Est-ce qu'il avait besoin de tout citer de peur qu'ils oublient... de vérifier
très intéressant, choses. Très intéressant comme question, parce que d'ailleurs, si on regarde la sémantique de la Torah ne parle jamais d'espion. La Torah parle d'explorateur. Comme d'ailleurs le terme qui est utilisé dans la Torah, c'est la tour. D'abord, le mot tour en français, c'est tourisme, d'accord. Donc la tour, les hommes sont revenus de la tour est à Arets, alors que eux se sont appelés des meraglim. Or meragel, c'est un espion. Il y a quelque part ici une modification de la mission. Moshe balise, c'est-à-dire il leur dit, moi je voudrais que vous fassiez du tourisme, faites-moi une photo de ça, revenez avec une carte postale de ça, voilà. Etc. Expliquez-moi comment ça se passe. Je ne vous demande pas de me donner vos conclusions, je vous demande de me faire une photographie. Et eux, au lieu de faire les touristes, ils en sortent des conclusions comme un espion. C'est-à-dire où ils commencent à réfléchir avec leur propre esprit. Mais c'est si vous voulez, la différence, à quel moment l'homme bon flanche, c'est quand il y a une nuance. L'homme mauvais flanche à n'importe quel tournant de rue. C'est trop facile. Mais là, on ne parle pas de gens mauvais, on parle de gens bons, de gens qui sont excellents. Donc c'est les meilleurs, c'est ce qui se fait de mieux. Donc à quel moment on peut se tromper, c'est quand il y a une nuance. Et c'est cette petite nuance qui fait défaut. Et quand on n'arrive pas à la saisir, c'est là où on peut se tromper de mission. Donc tout se tient en réalité dans cette paracha. On se rend compte que quelque part, Il y a d'ailleurs le premier rachis de la paracha nous dit pourquoi est-ce qu'on a mis la paracha de Shlach juste après la paracha de Myriam qu'on a vu la semaine dernière. On parlait de Myriam qui avait parlé du mal de Moshe. Et Rachid nous explique oui, parce qu'ils ont vu que Myriam a parlé du mal de Moshe et qu'elle a été punie pour ça. Eux n'ont pas tiré la leçon. Ils se sont pas gênés de parler du mal de la terre. Vous voyez, il y a parler du mal, en vérité, la Torah, elle, entre Rachid nous explique qu'il y a une forme d'analogie entre parler du mal d'une personne et parler du mal de la terre. Comme si c'était la même chose. Mais oui, c'est la même chose. C'est-à-dire que le fait de parler du mal, c'est aussi avoir un regard. Comment est-ce qu'on porte un regard sur l'histoire, sur les autres, sur des informations enfin, je veux dire, ce que la Torah veut nous apprendre, c'est que porter un regard négatif sur quelque chose ou sur une personne, c'est quelque chose qui est intrinsèquement mauvais. Il faut s'éduquer à porter un regard positif sur l'histoire que nous traversons. Même si elle n'est pas toujours positive, malheureusement, parce que c'est comme ça, on est encore en exil, mais un jour, elle sera que positive.
Mais disons que ce qui est intéressant aussi dans cette paracha, c'est finalement que la période dont on parle, c'est une période qui va compter malheureusement dans beaucoup, on va dire, de choses mauvaises dans le peuple juif. Il y a beaucoup de choses de mauvais qui s'est passé en Tammuz et encore en Av. C'est-à-dire que cette période-là, elle a été dès cette période-là, elle a été considérée comme très compliquée.
Oui, parce qu'ils sont revenus, c'était le 9 av, donc ouais, Dieu a dit vous pleurez pour rien, je vais faire en sorte que vous pleurez pour quelque chose. Ouais. Et les deux temples de Jérusalem se sont détruits le 9 av. Évidemment. Alors, d'abord, il faut tout remettre.
Ça part de là.
Oui, ça part de là, le 9 av, oui.
Non, c'est-à-dire toutes les choses qu'on a eues, les mauvaises choses qu'on a eues,
ça part de la faute du veau d'or et de celle-là.
Ah.
Voilà, on a deux grands épisodes. Avant la période, on va dire, de 40 ans dans le désert, errement dans le désert. Bon. Si on regarde bien l'histoire des 40 ans dans le désert et qu'on regarde les épisodes de tension, il n'y en avait pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on... Faites un petit peu l'analyse dans une communauté où il y a 10 000 personnes sur 5 ans ou 10 ans, combien d'histoires on peut avoir, et vous regardez un peuple entier, donc à peu près entre 3 et 4 millions de personnes.
Même moins que 50 personnes.
Oui, même moins. Et que vous avez une communauté qui fait à peu près entre 3 et 5 millions de personnes sur 40 ans, on a quelques parachutes avec quelques épisodes, on va dire, qui étaient en marge. Donc moi, je ne noircis pas le tableau, je me dis que quand même, ça c'est assez...
Bien passé.
Ah, c'est bien passé. Après, le fait que ces dates soient marquées dans l'histoire comme étant des dates, on va dire, négatives.
Sombres.
L'histoire du peuple juif, et je dirais notre défi à nous, c'est justement de savoir traverser ces moments. C'est-à-dire notre force. Le peuple juif ne s'est pas construit sur un oasis ou dans une forme d'endroit paradisiaque. Le peuple juif s'est construit d'abord en Égypte. C'est en Égypte que toute l'histoire a démarré. Donc c'est dans la difficulté. C'est en exil. Si on échoue, c'est-à-dire à la porte d'Israël, on échoue et qu'on se retrouve dans le désert pendant 40 ans et que ces dates-là sont marquées comme étant sombres, c'est parce qu'en réalité, il y a une forme, je ne vais pas dire de répétition de l'histoire, mais de leçon répétitive. C'est-à-dire que notre objectif reste toujours le même. Comment reconstruire ce moment? Comment reconstruire le temple de Jérusalem? Comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'il soit éternel? Et que le fait même que ça se passe toujours dans la même période, ça marque bien que ça fait partie de notre histoire et non pas au hasard. Vous voyez, le fait que le 9 av soit marqué dans l'histoire depuis toujours qu'on ait passé l'Inquisition, que ce soit toujours le 9 av, etc., ça montre qu'il y a quelque chose de spirituel ici. Et donc, s'il y a quelque chose de spirituel, c'est-à-dire que notre histoire de l'exil, c'est une histoire où nous devons être capables de transformer le monde dans lequel nous sommes.
Il nous reste à peu près 5 minutes, je voudrais quand même qu'on évoque les deux mitzvot que sont la chala et les tzitzit. La chala, on va essayer de résumer. Sur Rabba, vous m'arrêtez.
Vous m'avez appelé, monsieur le Rabba.
Dans quelques années. Monsieur le Rabba, madame Salmama, je veux que si vous dites une bêtise, vous m'arrêtez. La chala, c'est quand on fait une pâte. On prend une partie de cette pâte qu'on met de côté et on fait une bracha Hein, et alors,
la friche challah, oui, tout
voilà,
à fait.
Alors, c'est quoi la symbolique de cette challah qu'on veut écouter ? D'abord, vraiment, qu'est-ce qu'on fait avec cette challah ? On la brûle, on la jette, on fait quoi ?
Alors, bon, techniquement, normalement, il faudrait de la donner au Kohen, mais il faudrait que le Kohen soit en mesure de pouvoir la manger, puisque ça fait partie des offrandes.
Mais aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, on ne peut pas la donner au Kohen.
Alors, on fait quoi avec ?
On la brûle. On la brûle,
totalement.
On la jette. Oui, on la jette. On met, moi, ma femme la met dans un papier d'alu, elle le brûle et elle le met au four, et quand c'est plus consommable, elle le jette
normal
à la poubelle. Voilà.
Ouais, okay.
Quand c'est plus consommable. Ce que je veux dire, c'est très intéressant parce que notre paracha, en réalité, il y a une forme de refus par les Meraglim, donc ceux qui ne veulent pas rentrer en Israël, de se confronter au monde. Et notamment parce qu'ils avaient ce confort-là, qui était la manne et l'habillement. Or, on observe que les deux mitzvot qui nous sont donnés dans cette paracha, c'est une mitzvah liée à ce qu'on mange, la challah, et une mitzvah liée à comment on s'habille, les tzitzit. Le tzitzit, c'est un habillement. Donc, on a ces deux choses.
Excusez-moi, le tzitzit, c'est le petit habit qu'il y a avec les quatre coins, avec des fils.
Avec les fils qui pendent, oui.
Comme ça, des gens savent de quoi
les franges.
On parle. Voilà, les franges.
Les franges.
Voilà.
Donc, c'est une mitzvah qui est liée à ce qu'on mange et une mitzvah liée à l'habillement. Ce sont ces deux choses-là qui sont des indicateurs comme quoi ce qu'on mange doit être élevé, parce que quand on prélève un bout de pâte de l'ensemble, c'est-à-dire qu'on est en train de dire que ce qu'on fait n'est pas banal. Il y a un sens. Ça a un sens qui dépasse...
On pourrait faire pour tout des aliments, alors.
Mais normalement, en Israël, il faut faire la trouma et la maaser sur tout ce qu'on mange, d'accord, sur les fruits et les légumes. Mais justement, c'est ça l'objectif. Qu'est-ce que la Torah vient nous indiquer ici ? C'est que l'objectif d'une personne sur Terre...
Quand vous mangez un paquet de gâteaux où il n'y a pas de challah, vous devriez faire une challah... Enfin,
Non, évidemment, il y a des conditions dans la halakha. Voilà. À qui appartient la pâte, etc. Donc, évidemment, mais normalement, quand vous achetez un paquet de gâteaux cachers, soit, d'après la halakha, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, soit c'est déjà fait. Mais dans tous les cas, la mitzvah de challah, elle a pour objectif de nous indiquer que la vie dans le monde dans lequel nous vivons, qui nous astreint à manger, hein, ça fait partie de nos besoins. Et la vie qui nous oblige aussi de nous habiller, eh bien, ces deux choses-là doivent aussi appartenir au domaine du spirituel. Le fait de mettre des tzitzit, ça veut dire que c'est un talit, c'est un habit qui prend une dimension sacrée. Le fait qu'on va prélever un morceau de pâte, ça montre que cette pâte, elle a aussi une dimension sacrée, parce que je viens de prélever quelque chose.
Sur la pâte, je suis d'accord, à la rigueur, je comprends, on peut dire que tout appartient, etc., quand je vois au coup, etc. Ça, je comprends. Par contre, pour la vie, je ne comprends pas. Pourquoi on est obligé de mettre un tzitzit en plus, ça nous a créé beaucoup de problèmes. L'idée, c'est de se rappeler qu'on doit faire des mitzvot, pareil pour la kippa, se rappeler qu'au-dessus de nous, il y a quelqu'un, mais je comprends pas les tzitzit. C'est quelque chose qui me semble, entre guillemets, superflu.
Alors, il y a deux choses dans les tzitzit. Il y a l'obligation d'accrocher des tzitzit à un habit qui a quatre coins.
Déjà, il y en a plus en France aujourd'hui, des habits à quatre coins.
Bah, c'est pour ça qu'on en achète,
avec des habits à quatre coins. Justement, voilà. Ce serait une idée de dire, bon, il y a plus, on ne veut plus. Comprends-tu ce que je veux dire? Il n'y a plus d'habits à quatre points, mais plus de tzitzit, tu vois, je vois. Ce serait peut-être plus simple comme ça.
Oui, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne mettent pas de tzitzit.
D'accord.
Mais c'est pour ça que la Gemara, elle dit que celui qui cherche, je ne vais pas dire celui qui cherche à faire des mitzvot, on va un peu édulcorer le terme, et il mettra ses tzitzit. Donc il y a comme une obligation à porter un habit à quatre coins qui a des tzitzit. Donc, mais la Torah nous dit bien que les ma'an tizkeru va citer à mettre comme mitzvotai. Donc, les tzitzit ont pour objectif de nous rappeler quand on les voit. Ou ritem oto, ou srartem. Donc, quand on les voit, on se rappelle des mitzvot. Donc, c'est un rappel à l'ordre, un rappel de conscience du quotidien. Mais parce que justement, l'objectif, c'est de faire en sorte de sacraliser notre quotidien. Après, évidemment, c'est comme toutes les mitzvot, hein, les gens choisissent de les faire ou de ne pas les faire, chacun a son libre arbitre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la paracha, on a un bloc commun, un ensemble qui a du sens. C'est-à-dire aussi bien d'un point de vue de aussi bien d'un point de vue de l'histoire qui est racontée que des mitzvot qui sont données après. D'ailleurs, on peut aussi rappeler une autre chose. C'est qu'il y a encore une autre mitzvah qui nous est rappelée dans la paracha de cette semaine. C'est celle du Shabbat. Puisqu'on nous raconte qu'il y a une personne qui n'a pas fait Shabbat et donc qui a été punie. Donc il y a...
cette histoire aussi est très, très bizarre.
Cette histoire est très bizarre.
On ne donne pas le nom maintenant, on le donnera plus tard. On sait qu'il s'agit de Tselophrate et voilà.
Très bien. Voilà, mais encore une fois, ça tient dans ce bloc de la paracha qui prend en compte, les trois dimensions de l'être humain. Il y a le temps. Et il y a l'espace, d'accord ? Le temps et l'espace, et ensuite ses besoins. Donc ses besoins d'habillement et ses besoins nutritionnels.
D'accord.
Donc, et que dans ces trois domaines-là, la Torah nous indique que, un, nous avons des mitzvot par rapport à ça, et que, deux, ne pas accomplir ces mitzvot peut avoir des conséquences. Donc, pour moi, c'est un bloc qui nous rappelle l'histoire des Meraglim, donc des explorateurs, qui eux se sont contentés de faire les mitzvot, je dirais spirituellement, c'est-à-dire ils se sont contentés de vivre dans un monde qui ne nécessite pas la confrontation avec l'altérité.
Monsieur le rabbin, Madame Shama, le rabbin de la synagogue de la Meraglim, merci beaucoup.
Merci à vous, merci pour votre invitation.
Je vous souhaite un excellent Shabbat et si de vous, on se retrouve la
Shabbat
semaine
shalom
prochaine.
À
Shabbat
tous et shalom à toutes.
Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, Yidelech prepare for Shabbos Kodesh, joy is in the air for Shabbos Kodesh.